Lyderic, de l'ermite au grand forestier. D'après le spectacle écrit par Maurice Pichon et mis en scène par Marc Amé. Avec Paul Delay, l'ermite, Marc Amé, l'érudit, Christophe de Vlieger, le roi d'Agobert, Jonathan Van Laar, Lyderic, Luc Verquest, le crieur, et Élise Van Scoris, la sœur du roi. Vers l'an 620, à l'époque où régnait le roi d'Agobert, le prince Salvard de Dijon, à la tête d'une riche caravane, traverse la forêt sans foi ni merci de Mont-de-l'Enclus. Il se fait attaquer par le comte Finard. Toute la caravane est tuée, sauf l'épouse de Salvard, Ermengarde de Roussillon, qui s'enfuit et accouche de frayeur d'un petit garçon qu'elle cachera sous un buisson avant d'être capturée par Finard, l'infâme. L'enfant sera recueilli et élevé par un ermite qui lui donnera son nom, Lyderic. Plus tard, le jeune Lyderic suivra, selon les légendes, une formation en Angleterre avant de revenir dans nos contrées et d'être à l'origine de la fondation des villes de Bruges et de Lille et de la puissante lignée des comtes de Flandre. L'un de ses descendants, Lyderic II, s'établira à Harelbeek, où on peut d'ailleurs y voir sa statue sur la place. La légende de Lyderic a de réelles attaches historiques. Mont-de-l'Enclus, comme Cloisberg d'ailleurs, signifie « Mont de l'Ermitage ». Et sur de vieilles cartes de la commune, différents lieux cités dans la légende y sont inscrits. Et puis les légendes ne surgissent jamais de rien. Ce n'est pas l'ermite qui me contredira.
Ça fait maintenant 25 ans. Non, 30. Ou même 32. Oh, mais avec l'âge, je perds la mémoire. Il y a dans ma tête un caillou qui grossit et qui grossit. Et j'oublie tout. Je ferais mieux de consulter mes notes. Voyons voir. Oui, voyons voir. Oui, c'est bien, depuis 32 ans. Oui, 32 ans que je suis installé ici à l'ermitage de la Vertevoie, dans cette forêt sans foi ni loi qui couvre la colline d'avant les marais de la Flandre. Et la solitude ne me pèse pas trop. Au contraire, loin du monde, loin du pouvoir, loin de la cruauté. Voyons voir. Nous devons être aux environs de 640. D'après des marchands qui sont passés il y a 15 jours, le roi Clotaire II est mort. Paix à son âme de barbare cruel. C'est son fils Dagobert qui règne. On en dit grand bien, car il écoute son conseiller avisé, l'évêque Éloi. Ce roi serait tellement distrait qu'il aurait mis une fois sa culotte à l'envers, paraît-il. Légende, vérité, que je me souvienne bien. Oh, c'est si loin tout ça. Comme si c'était la vie d'un autre aussi. Jeune, j'ai assisté au déchirement du royaume que la haine de deux reines sanglantes a plongé dans l'horreur. J'ai vu le roi Clotaire II égorger ses neveux. Frédégonde et Bruno ont mis le pays à feu et à sang, coup pour coup. Dégoûté, j'ai quitté le service du roi et je suis devenu un vagabond. Je pensais que mon errance effacerait les images cruelles qui dévoraient mes jours et mes nuits. Un bienheureux hasard a conduit mes pas dans la forêt sans foi ni merci de l'Enclus. J'ai trouvé cet ermitage où un vieil ermite se mourait, et j'ai décidé de m'installer de continuer sa tâche. Depuis, je soigne, accueille, réconforte, j'aide à vivre et à mourir. Non, je ne regrette rien.
Voici l'érudit.
Il était habituel que l'Église récupère les lieux sacrés anciens et les christianise par un signe comme une croix ou par l'implantation d'un ermitage. Les ermites se relayaient, mais le lieu restait. Il y avait une permanence. Or, le site de la Vertevoie est sacré et magique pour les Celtes. Il y a les sources et les arbres auxquels on rend un culte. Il y a même un menhir. L'endroit est donc assimilé par le christianisme et marqué d'un ermitage. Enclus signifie d'ailleurs ermitage, un enclos. De même, Cleuss signifie ermitage, mont de l'ermitage. L'histoire de l'enclus conserve des traces de plusieurs ermites à des périodes différentes. Ainsi, vers 1148, une légende, celle des faux monnayeurs, se réfère à un ermite chef de brigands. Ainsi, vers 1708, le pasteur d'Amougy écrit au doyen de Renais pour se plaindre de la présence d'ermites qui attirent ses paroissiens et les poussent dans des excès. Comme on le voit, l'idée d'ermitage est une constante pour l'enclus. L'ermitage de la Vertevoie. On en trouve trace dans un vieil atlas de l'administration communale.
Tiens, le brouillard se lève. Sale temps pour les voyageurs qui traversent la forêt sans foi ni loi. Déjà, les voleurs en tout genre qui s'y cachent doivent se préparer. On aiguise les couteaux, les haches, les piques. Oh, je les devine en train de s'enivrer et de fêter le butin espéré. Mon rôle est d'orienter ces voyageurs égarés vers l'ermitage, de les accueillir, de les réconforter. Activons le feu qu'ils voient la lueur. Sonnons le fer qu'ils suivent le bruit. Par ici, homme de bien, par ici. La forêt est sans pitié. Par ici.
La forêt est sans pitié. Tous les auteurs qui en parlent, Henri Conscience, Alexandre Dumas, Cécile Amé et bien d'autres, en font une description effrayante. C'est une forêt sombre, épaisse, primitive. C'est le refuge des hors-la-loi de tout genre. Les charbonniers qui y vivent et fabriquent le charbon de bois ont l'âme aussi noire que leur peau. Qui y pénètre et s'y égare n'en revient jamais. Et la population des villages environnants a conclu à la présence de sorciers, démons, objets qui s'animent et dévorent les imprudents. Univers effrayant. Mais une réalité proche met pourtant en valeur ce caractère dangereux de la forêt. Ainsi, le dimanche 11 juin 1724, la chasse de Saint-Hermet est attaquée pendant le Firtel, au Music Boss. C'est une bande de dangereux brigands qui tentent le coup. La bande des Égyptiens. Ainsi encore à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, plusieurs bandes écument la région. Je citerai entre autres la bande de Jean-Baptiste Lefebvre, dit Sans Doigts. D'ailleurs, une autre belle légende du Mont de l'Enclus a conservé la trace de cet aspect dangereux de la forêt. La légende des faux monnayeurs. Écoutez plutôt. En 1148, deux seigneurs flamands s'égarent dans la forêt en revenant de croisade. Ils aboutissent à un ermitage occupé par un vieil ermite qui les accueille pour la nuit. Méfiant, ils ne dorment que d'un œil. Et il voit l'ermite se transformer en un homme bien solide et disparaître par une trappe. Ils le suivent et découvrent une bande de brigands occupés à fondre des métaux précieux et des objets sacrés. C'est l'ermite qui les dirige. Après avoir averti le comte de Flandre, Thierry d'Alsace, ils reviendront arrêter les faux monnayeurs. Et le prétendu ermite finira pendu au créneau du château de Gand. Dangereuse forêt que celle de l'Enclus. Mais revenons à notre saint ermite, à nous, et voyons-le préoccupé d'orienter les voyageurs en danger.
Brouillard du démon né de la laine même des êtres malfaisants. C'est le trou du diable sur le sommet de la colline qui te répand. Ça sent le soufre. Ce trou, c'est le trou de l'enfer. Il faudrait le fermer par des prières et la construction d'une chapelle. Malheureusement, c'est Satan qui règne là.
Saint homme, j'ai vu ton feu. J'ai entendu le son de ton fer. Je te remercie et te donne le salut. Que le dieu de Clovis et de Saint-Martin te protège. Je te demande le gîte et le couvert, perdu que je suis dans le maudit brouillard.
Qui que tu sois, tu es le bienvenu. Le repas d'un ermite est maigre. La paillasse est peu fournie, mais ici tu es en sécurité. Passe la nuit. Demain, je t'orienterai dans la forêt.
Tu dois être un sage de grand renom. Je te dis ma gratitude pour ton accueil simple et chaleureux.
Tu parles comme un homme de bien, un seigneur. Mais dis-moi, es-tu lépreux que tu caches ainsi ton visage? Rassure-toi, cela ne changera rien à mon accueil. Lidéric, mon fils, toi, oh toi, je peux enfin mourir. Je t'ai revu. Grâce au puissant, Lidéric, enfin toi.
Et l'ermite et Lidéric d'échanger leurs souvenirs au coin du feu et de se raconter l'un à l'autre depuis la dizaine d'années qu'ils sont séparés. D'abord, Lidéric raconte ce qu'il a appris en Angleterre, car vers ses 10 ans, l'ermite l'a envoyé dans ce pays, à la cour d'un roi local, où il a fait son apprentissage. Il s'est exercé au métier des armes, à l'agriculture, à l'assèchement de marais, au défrichage. Dans une petite abbaye, il a lu des livres sur les techniques, a fréquenté des savants. Tout cela lui sera bien nécessaire plus tard, quand, selon la légende, il entreprendra son œuvre de développement de la Flandre. Alors, avec nostalgie, l'ermite rappelle à son protégé le passé, ces temps de 620 où le comte Finard du Buc, l'infâme, que Satan lui ronge les tripes, attaqua la caravane du père de Lidéric et le tua. Mais écoutons des extraits de la légende telle qu'on la chantait encore au début du XXe siècle à Amougy, en ancien français.
Triste est l'histoire de Lidéric, fils de Salvar, prince de Dijon et d'Ermengarde de Roussillon. Salvar, battu sur ses terres de Dijon, après une longue guerre de religion, quitta sa région pour l'Angleterre, île Bastion. Tous cheminaient droit au nord, sans s'égarer ni rôder aux abords. Salvar avait à sa suite quelques hommes de mérite, les plus hardis au cou, et son épouse enceinte était saisie de crainte. Mais suivait son époux. Hélas, l'ambitieux Finard et ses soldats mutins rôdaient de toutes parts pour faire du butin. Jaillit des fourrés pour la battue, les brigands se ruent et tuent. La princesse s'échappe et fuit dans la forêt sans foi ni merci. Finard, en folie et rage, la poursuit dans les bocages. Épuisée et inquiète, la princesse se cache sous un buisson, où elle accouche de détresse d'un beau petit garçon. Elle le muche sous les feuilles et s'éloigne l'esprit en deuil. À l'écart, ils ont pris cette femme, qu'ils ont menée à Finard. La fille emprisonnée bien à part, et la tient captive. Un ermite, au bocage, allant puiser de l'eau près de son ermitage, à la fontaine del Sol, entendit, naissante, une voix languissante, pleurant amèrement. Dedans le bois s'enfonce, et trouva sous les ronces ce beau petit enfant. Par charité humaine, voyant cet innocent, de l'eau de la fontaine, sitôt le baptisa. Et pour nom de baptême, il le nomma à l'heure même Lidéric, comme lui. L'a emporté dans l'ermitage, l'élevant de façon sage, jusqu'à ce qu'il fût grand. Lorsqu'il eut atteint l'âge du bon sens et de raison, l'ermite lui révéla leur forfait de Finard, puis l'envoya en Angleterre pour faire son éducation.
Revanche, ou plutôt justice. Ce temps est arrivé. Que Finard, le pauvre putride, paye pour ses rapines et tous ses crimes. Qu'il paye pour ton père Salvar et pour tout le sang qu'il répand sur le nord du royaume depuis bien trop longtemps. Tu seras le brave vengeur. Prends ton cheval, galope jusqu'à Soissons, où le roi Dagobert est actuellement avec sa cour. Demande-lui justice et tu obtiendras le duel judiciaire contre Finard. D'ailleurs, tu vas voir ton destin. Tu vas rentrer dans ton futur. Ainsi, tu sauras ce qui t'attend. Bois de cette eau magique, celle d'une source sacrée, la Bestebeek. Cette eau a le pouvoir de soigner les yeux et elle peut aussi les ouvrir sur l'avenir.
La source Bestbeek est située à Russigny, au sommet de la colline dans un vallon escarpé. Bestbeek, le ruisseau favorable et bon. Son eau ferrugineuse était réputée excellente pour soigner l'anémie des enfants. Elle servait aussi à baigner les yeux des malades.
Bois cette eau magique qui ouvre les chemins du temps et vois. Vois la cour du roi Dagobert. Entre-y par le regard. Bois.
Assez, assez de vacarme et débat. Je veux réfléchir aux choses de mon royaume dans le calme.
Roi Dagobert, la renommée de ta sagesse est grande. Tu règnes sur le royaume réunifié. Je salue ta puissance et ose te demander justice contre Finar, comte du Buc, un de tes nobles. Voilà 20 ans que ce seigneur Félon a attaqué la caravane de mon père, le prince Alvar de Dijon et de Haute-Bourgogne. Transgressant toutes les lois, il tua tous les gens du convoi, fit grand butin et garda ma mère en otage. Il la retient toujours en son château. Il t'a caché ce méfait comme tous les autres, où il met le nord de ton royaume à feu et à sang. Il opprime le pauvre peuple, massacre, viol, incendie. Seule la rapine l'intéresse. Je te demande justice.
La rumeur m'a informé des nombreux crimes de Finar. J'apprends de ta bouche son attaque sur la caravane d'un prince. Un prince. Mon conseiller Éloi, un saint homme, m'exhorte à intervenir, à faire œuvre de nettoyage dans le nord, contre Finar et ses immondes brigands. C'est pourquoi, par mon autorité, je décrète le duel judiciaire. Qu'on amène Finar, et toi, jeune Lidéric, va te préparer au combat.
Contre l'accusé, Finar, comte du Buc. Contre l'accusateur, Lidéric, fils du prince Salvar de Dijon et de la princesse Ermengarde de Roussillon. Combat sans merci.
Justice est faite. Va te désaltérer, toi aussi, et reviens me voir. Ton roi est fier de ta force et de ta sagesse. Il a besoin d'hommes décidés, de chefs courageux, pour défendre les frontières du Nord contre les invasions des Normands, les Vikings. Lidéric, tu reçois les terres de Finard et une charge, grand forestier de Flandre. Te voilà, en mon nom et pour moi, à la tête du Nord que tu défendras, gouverneras et développeras. Pour sceller mon accord et preuve de fidélité réciproque, je te donne ma sœur en mariage. Elle n'a Dieu que pour toi depuis qu'elle t'a vu. Assure-toi une nombreuse et puissante descendance.
Ô grand roi, que vous êtes bon! Le bonheur déjà m'emplit de cet illustre choix. Puissais-je être digne de l'honneur que vous me faites? Mon cœur bat à l'idée d'être aux côtés de ce grand forestier.
Plus proche de nous, Cécile Amé, dans un livre sur Lidéric, a idéalisé fortement le personnage, car il était un rude et violent mérovingien. Pourtant, laissons-lui la parole. Elle écrit « La Flandre au temps de Finard était une terre mauvaise qui étouffait toute œuvre bonne. Les épines étaient ceux qui perpétraient le mal dans la forêt. Mais Lidéric vint. Il tua le mauvais Finard. Il coupa, trancha, déracina toutes les ronces, toutes les épines qui étaient les bandits du géant. Comme le fait le laboureur avant de travailler son champ. Lidéric a été le bon laboureur de la Flandre. Il prépara sa terre pour les semeurs. Et les semeurs vinrent. Pourtant, Lidéric était un pauvre petit garçon qui n'avait plus ni père, ni mère, ni patrimoine. Un tout petit garçon élevé dans la pauvreté par un vieil ermite. Lidéric était pauvre. Ayant tout perdu, il n'avait plus rien. Rien qu'un cœur d'or, rien qu'une volonté de fer. Mais c'est avec ce cœur d'or, mais c'est avec cette volonté de fer qu'il devint lui-même. Qu'il devint Lidéric le premier, le puissant forestier Lidéric, l'ancêtre des comtes de Flandre.
Place au spectacle de la victoire.